Nana, chapitre 13. Vers la fin de septembre, le comte Muffat, qui devait dîner chez Nana le soir, vint au crépuscule l'avertir d'un ordre brusque qu'il avait reçu pour les Tuileries. L'hôtel n'était pas encore allumé, les domestiques criaient très fort à l'office. Il monta doucement l'escalier, où les vitraux luisaient dans une ombre chaude. En haut, la porte du salon ne fit pas de bruit. Un jour rose se mourait au plafond de la pièce. Les tentures rouges, les divans profonds, les meubles de laque, ce fouillis d'étoffes brodées, de bronze et de faïence, dormaient déjà sous une pluie lente de ténèbres qui noyait les coins sans un miroitement d'ivoire ni un reflet d'or. Et là, dans cette obscurité, sur la blancheur seule distincte d'un grand jupon élargi, il aperçut Nana renversée au bras de Georges. Toute dénégation était impossible. Il eut un cri étouffé. Il resta béant. Nana s'était relevée d'un bond, et elle le poussait dans la chambre pour donner au petit le temps de filer. « Entre !» murmura-t-elle, la tête perdue. « Je vais te dire !» Elle était exaspérée de cette surprise. Jamais elle ne cédait ainsi chez elle, dans ce salon, les portes ouvertes. Il avait fallu toute une histoire, une querelle de Georges enragée de jalousie contre Philippe. Il sanglotait si fort à son cou qu'elle s'était laissée faire, ne sachant comment le calmer, très apitoyée au fond. Et, pour une fois qu'elle commettait la bêtise de s'oublier ainsi, avec un galopin qui ne pouvait même plus lui apporter des bouquets de violettes, tant sa mère le tenait serré, juste le comte arrivait et tombait droit sur eux. Vrai, pas de chance. Voilà ce qu'on gagnait à être bonne fille. Cependant, l'obscurité était complète dans la chambre où elle avait poussé Muffat. Alors, à tâtons, elle sonna furieusement pour demander une lampe. Aussi, c'était la faute de Julien. S'il y avait eu une lampe dans le salon, rien de tout cela ne serait arrivé. Cette bête de nuit qui tombait lui avait retourné le cœur. « Je t'en prie, mon chat, sois raisonnable, » dit-elle, lorsque Zoé eut apporté de la lumière. Le comte, assis, les mains sur les genoux, regardait par terre, dans l'hébétement de ce qu'il venait de voir. Il ne trouvait pas un cri de colère. Il tremblait, comme pris d'une horreur qui le glaçait. Cette douleur muette toucha la jeune femme. Elle essayait de le consoler. « Eh bien, oui, j'ai eu tort. C'est très mal ce que j'ai fait. Tu vois, je regrette ma faute. J'en ai beaucoup de chagrin, puisque ça te contrarie. Allons, sois gentil de ton côté. Pardonne-moi. » Elle s'était accroupie à ses pieds, cherchant son regard d'un air de tendresse soumise, pour savoir s'il lui en voulait beaucoup. Puis, comme il se remettait, en soupirant longuement, elle se fit plus câline. Elle donna une dernière raison avec une bonté grave. « Vois-tu, chérie, il faut comprendre. Je ne puis refuser ça à mes amis pauvres. » Le comte se laissa fléchir. Il exigea seulement le renvoi de Georges. Mais toute illusion était morte. Il ne croyait plus à la fidélité jurée. Le lendemain, Nana le tromperait de nouveau, et il ne restait dans le tourment de sa possession que par un besoin lâche, par une épouvante de la vie, à l'idée de vivre sans elle. Ce fut l'époque de son existence où Nana éclaira Paris d'un redoublement de splendeur. Elle grandit encore à l'horizon du vice. Elle domina la ville de l'insolence affichée de son luxe, de son mépris de l'argent, qui lui faisait fondre publiquement les fortunes. Dans son hôtel, il y avait comme un éclat de forge. Ses continuels désirs y flambaient, un petit souffle de ses lèvres changeait l'or en une cendre fine que le vent balayait à chaque heure. Jamais on n'avait vu une pareille rage de dépenses. L'hôtel semblait bâti sur un gouffre. Les hommes, avec leurs biens, leurs corps, jusqu'à leur nom, s'y engloutissaient, sans laisser la trace d'un peu de poussière. Cette fille, au goût de perruche, croquant des radis et des pralines, chipotant la viande, avait chaque mois pour sa table des comptes de 5 000 francs. C'était, à l'office, un gaspillage effréné, un coulage féroce qui éventrait les barriques de vin, qui roulait des notes enflées par 3 ou 4 mains successives. Victorine et Francis régnaient en maître dans la cuisine où ils invitaient du monde, en dehors d'un petit peuple de cousins nourris à domicile de viande froide et de bouillon gras. Julien exigeait des remises chez les fournisseurs. Les vitriers ne remettaient pas un carreau de 30 sous sans qu'il en fît ajouter 20 pour lui. Charles mangeait l'avoine des chevaux, doublant les fournitures, revendant par une porte de derrière ce qui entrait par la grande porte. Tandis que, au milieu de ce pillage général, de ce sac de ville en portée d'assaut, Zoé, à force d'art, parvenait à sauver les apparences, couvrait les vols de tous pour mieux y confondre et sauver les siens. Mais ce qu'on perdait était pis encore. La nourriture de la veille jetée à la borne, un encombrement de provisions dont les domestiques se dégoûtaient. Le sucre en poissant les verres, le gaz brûlant à plein bec jusqu'à faire sauter les murs. Et des négligences, et des méchancetés, et des accidents. Tout ce qui peut hâter la ruine dans une maison dévorée par tant de bouches. Puis, en haut, chez madame, la débâcle soufflait plus fort. Des robes de 10 000 francs, mises 2 fois, vendues par Zoé. Des bijoux qui disparaissaient, comme émiettés au fond des tiroirs. Des achats bêtes, les nouveautés du jour, oubliées le lendemain dans les coins, balayées à la rue. Elle ne pouvait voir quelque chose de très cher sans en avoir envie. Elle faisait ainsi autour d'elle un continuel désastre de fleurs, de bibelots précieux, d'autant plus heureuse que son caprice d'une heure coûtait davantage. Rien ne lui restait aux mains. Elle cassait tout. Ça se fanait, ça se salissait entre ses petits doigts blancs. Une jonchée de débris sans nom, de lambeaux tordus, de loques boueuses la suivait et marquait son passage. Ensuite, éclataient les gros règlements, au milieu de ce gâchis de l'argent de poche. 20 000 francs chez la modiste, 30 000 chez la lingère, 12 000 chez le bottier. Son écurie lui en mangeait 50 000. En 6 mois, elle eut chez son couturier une note de 120 000 francs. Sans qu'elle eût augmenté son train, estimé par la Bordette à 400 000 francs en moyenne, elle atteignit cette année-là le million, stupéfaite elle-même de ce chiffre, incapable de dire où avait pu passer une pareille somme. Les hommes, entassés les uns par-dessus les autres, l'or vidé à pleine brouette, ne parvenaient pas à combler le trou, qui toujours se creusait sous le pavé de son hôtel, dans les craquements de son luxe. Cependant, Nana nourrissait un dernier caprice. Travaillée une fois encore par l'idée de refaire sa chambre, elle croyait avoir trouvé. Une chambre de velours roseté, à petits capitons d'argent, tendue jusqu'au plafond en forme de tente, garnie de cordelières et d'une dentelle d'or. Cela lui semblait devoir être riche et tendre, un fond superbe à sa peau vermeille de rousse. Mais la chambre, d'ailleurs, était simplement faite pour servir de cadre au lit. Un prodige, un éblouissement. Nana rêvait un lit comme il n'en existait pas. Un trône, un autel, où Paris viendrait adorer sa nudité souveraine. Il serait tout en or et en argent repoussé, pareil à un grand bijou, des roses d'or jetées sur un treillis d'argent. Au chevet, une bande d'amour, parmi les fleurs, se pencherait avec des rires, guettant les voluptés dans l'ombre des rideaux. Elle s'était adressée à la Bordette qui lui avait amené deux orfèvres. On s'occupait déjà des dessins. Le lit coûterait 50 000 francs. Et Muffa devait le lui donner pour ses étrennes. Ce qui étonnait la jeune femme, c'était, dans ce fleuve d'or dont le flot lui coulait entre les membres, d'être sans cesse à court d'argent. Certains jours, elle se trouvait aux abois pour des sommes ridicules de quelques louis. Il lui fallait emprunter à Zoé. Ou bien elle battait monnaie elle-même comme elle pouvait. Mais, avant de se résigner aux moyens extrêmes, elle tâtait ses amis, tirant des hommes ce qu'ils avaient sur eux, jusqu'à des sous, d'un air de plaisanterie. Depuis 3 mois, elle vidait surtout ainsi les poches de Philippe. Il ne venait plus, dans les moments de crise, sans laisser son porte-monnaie. Bientôt, enhardie, elle lui avait demandé des emprunts, 200 francs, 300 francs, jamais davantage, pour des billets, des dettes criardes. Et Philippe, nommé en juillet capitaine trésorier, apportait l'argent le lendemain, en s'excusant de n'être pas riche, car la bonne maman Hugon traitait maintenant ses fils avec une sévérité singulière. Au bout de 3 mois, ses petits prêts, souvent renouvelés, montaient à une dizaine de mille francs. Le capitaine avait toujours son beau rire sonore. Pourtant, il maigrissait, distrait parfois une ombre de souffrance sur la face. Mais un regard de Nana le transfigurait dans une sorte d'extase sensuelle. Elle était très chatte avec lui, le grisait de baisers derrière les portes, le possédait par des abandons brusques qui le clouaient derrière ses jupes dès qu'il pouvait s'échapper de son service. Un soir, Nana ayant dit qu'elle s'appelait aussi Thérèse et que sa fête tombait le 15 octobre, ces messieurs lui envoyèrent tous des cadeaux. Le capitaine Philippe apporta le sien, un ancien drageoir en porcelaine de Saxe, monté sur or. Il la trouva seule dans son cabinet de toilette, au sortir du bain, vêtue seulement d'un grand peignoir de flanelle blanche et rouge, et très occupée à examiner les cadeaux étalés sur une table. Elle avait déjà cassé un flacon de cristal en roche en voulant le déboucher. « Oh, tu es trop gentil !» dit-elle. « Qu'est-ce que c'est ? Montre un peu !»« Es-tu enfant de mettre tes sous à des petites machines comme ça ?» Elle le grondait, puisqu'il n'était pas riche, très contente au fond de le voir dépenser tout pour elle, la seule preuve d'amour qui la toucha. Cependant, elle travaillait le drageoir. Elle voulait voir comment c'était fait, l'ouvrant, le refermant. « Prends garde !» murmura-t-il. « C'est fragile !» Mais elle haussa les épaules. Il lui croyait donc des mains de portefaix. Et tout à coup, la charnière lui resta au doigt. Le couvercle tomba et se brisa. Elle demeurait stupéfaite, les yeux sur les morceaux, disant « Oh, il est cassé !» Puis elle se mit à rire. Les morceaux par terre lui semblaient drôles. C'était une gaieté nerveuse. Elle avait le rire bête et méchant d'un enfant que la destruction amuse. Philippe fut pris d'une courte révolte. La malheureuse ignorait quelles angoisses lui coûtait ce bibelot. Quand elle le vit bouleversé, elle tâcha de se retenir. « Par exemple, ce n'est pas ma faute. Il était fêlé. Ça ne tient plus, ces vieilleries. Aussi, c'est ce couvercle. « As-tu vu la cabriole ?» Et elle repartit d'un fou rire. Mais, comme les yeux du jeune homme se mouillaient, malgré son effort, elle se jeta tendrement à son cou. « Es-tu bête ? Je t'aime tout de même. Si l'on ne cassait rien, les marchands ne vendraient plus. Tout ça est fait pour être cassé. Tiens, cet éventail, est-ce que c'est collé seulement ?» Elle avait saisi un éventail tirant sur les branches, et la soie se déchira en deux. Cela parut l'exciter. Pour faire voir qu'elle se moquait des autres cadeaux, du moment où elle venait d'abîmer le sien, elle se donna le régal d'un massacre, tapant les objets, prouvant qu'il n'y en avait pas un de solide, en les détruisant tous. Une lueur s'allumait dans ses yeux vides. Un petit retroussement des lèvres montrait ses dents blanches. Puis, lorsque tous furent en morceaux, très rouges, reprises de son rire, elle frappa la table de ses mains élargies. Elle zézaya d'une voix de gamine. « Fini ! N'a plus ! N'a plus !» Alors Philippe, gagné par cette ivresse, s'égaya et lui baisa la gorge en la renversant en arrière. Elle s'abandonnait, elle se pendait à ses épaules, si heureuse qu'elle ne se rappelait pas s'être tant amusée depuis longtemps. Et, sans le lâcher, d'un ton de caresse, « Dis donc, chérie, tu devrais bien m'apporter 10 louis demain. Un embêtement, une note de mon boulanger qui me tourmente. » Il était devenu pâle. Puis, en lui mettant un dernier baiser sur le front, il dit simplement « Je tâcherai. » Un silence régna. Elle s'habillait. Lui appuyait le front à une vitre. Au bout d'une minute, il revint. Il reprit avec lenteur « Nana, tu devrais m'épouser. » Du coup, cette idée égaya tellement la jeune femme qu'elle ne pouvait achever de nouer ses jupons. « Mais, mon pauvre chien, tu es malade. Est-ce parce que je te demande 10 louis que tu m'offres ta main ? Jamais, je t'aime trop. En voilà une bêtise, par exemple. » Et comme Zoé entrait pour la chaussée, ils ne parlèrent plus de ça. La femme de chambre avait tout de suite guigné les cadeaux en miettes sur la table. Elle demanda s'il fallait serrer ses choses, et madame ayant dit de les jeter, elle emporta tout dans un coin de sa jupe. À la cuisine, on chiffonnait, on se partageait les débris de madame. Ce jour-là, Georges, malgré la défense de Nana, s'était introduit dans l'hôtel. François l'avait bien vu passer, mais les domestiques en arrivaient à rire entre eux des embarras de la bourgeoise. Il venait de se glisser jusqu'au petit salon lorsque la voix de son frère l'arrêta. Et, cloué derrière la porte, il entendit toute la scène, les baisers, l'offre de mariage. Une horreur le glaçait. Il s'en alla, imbécile, avec la sensation d'un grand vide sous le crâne. Ce fut seulement rue Richelieu, dans sa chambre, au-dessus de l'appartement de sa mère, que son cœur creva en furieux sanglots. Cette fois, il ne pouvait douter. Une image abominable toujours se levait devant ses yeux. Nana au bras de Philippe. Et cela lui semblait un inceste. Quand il se croyait calmé, le souvenir revenait. Une nouvelle crise de rage jalouse le jetait sur son lit, mordant les draps, criant des mots infâmes qui l'affolaient davantage. La journée se passa de la sorte. Il parla d'une migraine pour rester enfermé. Mais la nuit fut plus terrible encore. Une fièvre de meurtre le secouait dans de continuels cauchemars. Si son frère avait habité la maison, il serait allé le tuer d'un coup de couteau. Au jour, il voulut raisonner. C'était lui qui devait mourir. Il se jetterait par la fenêtre quand un omnibus passerait. Pourtant, il sortit vers 10 heures. Il courut Paris, rôda sur les ponts, éprouva au dernier moment l'invincible besoin de revoir Nana. Peut-être d'un mot le sauverait-elle. Et 3 heures sonnaient comme il entrait dans l'hôtel de l'avenue de Villiers. Vers midi, une nouvelle affreuse avait écrasé madame Hugon. Philippe était en prison de la veille au soir. On l'accusait d'avoir volé 12 000 francs à la caisse de son régiment. Depuis 3 mois, il détournait de petites sommes, espérant les remettre, dissimulant le déficit par de fausses pièces. Et cette fraude réussissait toujours grâce aux négligences du conseil d'administration. La vieille dame, atterrée devant le crime de son enfant, eut un premier cri de colère contre Nana. Elle savait la liaison de Philippe, Ses tristesses venaient de ce malheur qui la retenait à Paris, dans la crainte d'une catastrophe. Mais jamais elle n'avait redouté tant de honte. Et maintenant, elle se reprochait ses refus d'argent comme une complicité. Tombée sur un fauteuil, les jambes prises par la paralysie, elle se sentait inutile, incapable d'une démarche, clouée là pour mourir. Pourtant, la pensée brusque de Georges la consola. Georges lui restait, il pourrait agir, les sauver peut-être. Alors, sans demander le secours de personne, désirant ensevelir ces choses entre eux, elle se traîna et monta l'étage, rattachée à cette idée qu'elle avait encore une tendresse auprès d'elle. Mais, en haut, elle trouva la chambre vide. Le concierge lui dit que M. Georges était sorti de bonne heure. Un second malheur soufflait dans cette chambre. Le lit, avec ses draps mordus, comptait toute une angoisse. Une chaise jetée à terre parmi des vêtements semblait morte. Georges devait être chez cette femme. Et Madame Hugon, les yeux secs, les jambes fortes, descendit. Elle voulait voir ses fils. Elle partait les réclamer. Depuis le matin, Nana avait des embêtements. D'abord, c'était ce boulanger qui, dès 9 heures, avait paru avec sa note, une misère, 133 francs de pain qu'elle ne parvenait pas à solder, au milieu du train royal de l'hôtel. Il s'était présenté 20 fois, irrité d'avoir été changé, du jour où il avait coupé le crédit. Et les domestiques épousaient sa cause. François disait que madame ne le paierait jamais s'il ne faisait pas une bonne scène. Charles parlait de monter aussi pour régler un vieux compte de paille resté en arrière, pendant que Victorine conseillait d'attendre la présence d'un monsieur et de tirer l'argent en tombant en plein dans la conversation. La cuisine se passionnait. Tous les fournisseurs étaient mis au courant. C'était des commérages de 3 et 4 heures, madame déshabillée, épluchée, racontée, avec l'acharnement d'une domesticité oisive qui crevait de bien-être. Seul Julien, le maître d'hôtel, affectait de défendre madame. Tout de même, elle était chic. Et quand les autres l'accusaient de coucher avec, il riait d'un air fat, ce qui mettait la cuisinière hors d'elle, car elle aurait voulu être un homme pour cracher sur le derrière de ses femmes, tant ça l'aurait dégoûté. Méchamment, François avait posté le boulanger dans le vestibule sans avertir madame. Comme elle descendait, madame le trouva devant elle à l'heure du déjeuner. Elle prit la note, elle lui dit de revenir vers 3 heures. Alors, avec de sales mots, il partit, en jurant d'être exact et de se payer lui-même, n'importe comment. Nana déjeuna fort mal, vexée de cette scène. Cette fois, il fallait se débarrasser de cet homme. À 10 reprises, elle avait mis de côté son argent. Mais l'argent s'était toujours fondu. Un jour pour des fleurs, un autre jour pour une souscription faite en faveur d'un vieux gendarme. D'ailleurs, elle comptait sur Philippe. Elle s'étonnait même de ne pas le voir avec ses 200 francs. C'était un vrai guignon. L'avant-veille, elle avait encore nippé sa teint. Tout un trousseau, près de 1 200 francs de robes et de linge. Et il ne lui restait pas un louis chez elle. Vers 2 heures, comme Nana commençait à être inquiète, la bordette se présenta. Il apportait les dessins du lit. Ce fut une diversion, un coup de joie qui fit tout oublier à la jeune femme. Elle tapait des mains, elle dansait. Puis, gonflée de curiosité, penchée au-dessus d'une table du salon, elle examina les dessins que la bordette lui expliquait. « Tu vois, ceci est le bateau. Au milieu, une touffe de roses épanouies, puis une guirlande de fleurs et de boutons. Les feuillages seront en or vert et les roses en or rouge. Et voici la grande pièce du chevet, une ronde d'amour sur un treillis d'argent. » Mais Nana l'interrompit, emportée par le ravissement. Oh, qu'il est drôle, le petit, celui du coin qui a le derrière en l'air. Et ce rire malin. Ils ont tous des yeux d'un cochon. Tu sais, mon cher, jamais je n'oserais faire des bêtises devant eux. Elle était dans une satisfaction d'orgueil extraordinaire. Les orfèvres avaient dit que pas une reine ne couchait dans un lit pareil. Seulement, il se présentait une complication. La bordette lui montra deux dessins pour la pièce des pieds, l'un qui reproduisait le motif des bateaux, l'autre qui était tout un sujet. La nuit, enveloppée dans ses voiles, et dont un faune découvrait l'éclatante nudité. Il ajouta que, si elle choisissait le sujet, les orfèvres avaient l'intention de donner à la nuit sa ressemblance. Cette idée, d'un goût risqué, la fit pâlir de plaisir. Elle se voyait en statuette d'argent, dans le symbole des tièdes voluptés de l'ombre. Bien entendu, tu ne poserais que pour la tête et les épaules, dit la bordette. Elle le regarda tranquillement. Pourquoi? Du moment où il s'agit d'une œuvre d'art, je me fiche pas mal du sculpteur qui me prendra. Chose entendue, elle choisissait le sujet. Mais il l'arrêta. Attends, c'est 6 000 francs de plus. Par exemple, c'est ça qui m'est égal. Cria-t-elle en éclatant de rire. « Est-ce que mon petit mufle n'a pas le sac ?» Maintenant, avec ses intimes, elle appelait ainsi le comte Muffa. Et ces messieurs ne la questionnaient plus sur lui autrement. « Tu as vu ton petit mufle hier soir ? Tiens, je croyais trouver ici le petit mufle. » Une simple familiarité que pourtant elle ne se permettait pas encore en sa présence. La bordette roulait les dessins en donnant les dernières explications. Les orfèvres s'engageaient à livrer le lit dans 2 mois, vers le 25 décembre. Dès la semaine suivante, un sculpteur viendrait pour la maquette de la nuit. Comme elle le reconduisait, Nana se rappela le boulanger et brusquement « À propos, tu n'aurais pas dit Louis sur toi ?» Un principe de la bordette dont il se trouvait bien, était de ne jamais prêter d'argent aux femmes. Il faisait toujours la même réponse. « Non, ma fille, je suis à sec. Mais veux-tu que j'aille chez ton petit mufle ?» Elle refusa. C'était inutile. 2 jours auparavant, elle avait tiré 5 000 francs du compte. Cependant, elle regretta sa discrétion. Derrière la bordette, bien qu'il fût à peine 2h30, le boulanger reparut, et il s'installa sur une banquette du vestibule, brutalement, en jurant très haut. La jeune femme l'écoutait du premier étage. Elle pâlissait. Elle souffrait surtout d'entendre grandir jusqu'à elle la joie sourde des domestiques. On crevait de rire dans la cuisine. Le cocher regardait du fond de la cour. François traversait sans raison le vestibule, puis se hâtait d'aller donner des nouvelles, après avoir jeté au boulanger un ricanement d'intelligence. On se fichait de madame. Les murs éclataient. Elle se sentait toute seule dans le mépris de l'office qui la guettait et l'éclaboussait d'une blague ordurière. Alors, comme elle avait eu l'idée d'emprunter les 133 francs à Zoé, elle l'abandonna. Elle lui devait déjà de l'argent. Elle était trop fière pour risquer un refus. Une telle émotion la soulevait qu'elle rentra dans sa chambre en parlant tout haut. « Va, va, ma fille, ne compte que sur toi. Ton corps t'appartient et il vaut mieux t'en servir que de subir un affront. » Et, sans même appeler Zoé, elle s'habillait fiévreusement pour courir chez la Tricon. C'était sa suprême ressource aux heures de gros embarras. Très demandée, toujours sollicitée par la vieille dame, elle refusait ou se résignait selon ses besoins. Et les jours de plus en plus fréquents où des trous se faisaient dans son train royal, elle était sûre de trouver là 25 louis qui l'attendaient. Elle se rendait chez la Tricon, avec l'aisance de l'habitude, comme les pauvres gens vont au Mont-de-Piété. Mais, en quittant sa chambre, elle se heurta dans Georges, debout au milieu du salon. Elle ne vit pas sa pâleur de cire, le feu sombre de ses yeux grandis. Elle eut un soupir de soulagement. « Ah, tu viens de la part de ton frère ?»« Non, » dit le petit en blêmissant davantage. Alors elle fit un geste désespéré. « Que voulait-il? Pourquoi lui barrait-il le chemin? Voyons, elle était pressée. » Puis, revenant, « Tu n'as pas d'argent, toi ?»« Non. » « C'est vrai que je suis bête. Jamais un radis. Pas même les 6 sous de leur omnibus. Maman ne veut pas. En voilà des hommes. » Et elle s'échappait. Mais il la retint. Il voulait lui parler. Elle, lancée, répétait qu'elle n'avait pas le temps. Lorsque d'un mot, il l'arrêta. « Écoute, je sais que tu vas épouser mon frère. » Ça, par exemple, c'était comique. Elle se laissa tomber sur une chaise pour rire à l'aise. « Oui, » continua le petit, « et je ne veux pas. C'est moi que tu vas épouser. Je viens pour ça. »« Hein? Comment? Toi aussi ? » cria-t-elle. « C'est donc un mal de famille. Mais jamais, en voilà un goût. Est-ce que je vous ai demandé une saleté pareille? Ni l'un ni l'autre, jamais. » La figure de Georges s'éclaira. Mais s'il s'était trompé par hasard, il reprit. « Alors, jure-moi que tu ne couches pas avec mon frère. »« Ah, tu m'embêtes à la fin !» dit Nana, qui s'était levée, reprise d'impatience. « C'est drôle une minute, mais quand je te répète que je suis pressée, je couche avec ton frère si ça me fait plaisir. Est-ce que tu m'entretiens? Est-ce que tu paies ici pour exiger des comptes? Oui, j'y couche avec ton frère. » Il lui avait saisi le bras, il le serrait à le casser, en bégayant. « Ne dis pas ça, ne dis pas ça !» D'une tape, elle se dégagea de son étreinte. « Il me bat maintenant, voyez-vous ce gamin ? Mon petit, tu vas filer et tout de suite. Moi, je te gardais par gentillesse, parfaitement, quand tu feras des grands yeux. Tu n'espérais pas, peut-être, m'avoir pour maman jusqu'à la mort. J'ai mieux à faire que d'élever des mioches. » Il l'écoutait, dans une angoisse qui le raidissait, sans une révolte. Chaque parole le frappait au cœur d'un grand coup, dont il se sentait mourir. Elle, ne voyant même pas sa souffrance, continuait, heureuse de se soulager sur lui de ses embêtements de la matinée. « C'est comme ton frère, encore un joli coco, celui-là. Il m'avait promis 200 francs. Ah oui, je peux l'attendre. Ce n'est pas que j'y tienne à son argent. Pas de quoi payer ma pommade. Mais il me lâche dans un embarras. Tiens, veux-tu savoir? Eh bien, à cause de ton frère, je sors pour aller gagner 25 louis avec un autre homme. » Alors, la tête perdue, il lui barra la route. Et il pleurait, et il la suppliait, joignant les mains, balbutiant. « Oh non, oh non !»« Je veux bien, moi, » dit-elle. « As-tu l'argent ?» Non, il n'avait pas l'argent. Il aurait donné sa vie pour avoir l'argent. Jamais il ne s'était senti si misérable, si inutile, si petit garçon. Tout son pauvre être, secoué de larmes, exprimait une douleur si grande qu'elle finit par la voir et par s'attendrir. Elle l'écarta doucement. « Voyons, mon chat, laisse-moi passer. Il le faut. Sois raisonnable. Tu es un bébé, et ça a été gentil une semaine. Mais aujourd'hui, je dois songer à mes affaires. Réfléchis un peu. Ton frère encore est un homme. Je ne dis pas avec lui. Ah, fais-moi un plaisir. Inutile de lui raconter tout ça. Il n'a pas besoin de savoir où je vais. J'en lâche toujours trop long quand je suis en colère. » Elle riait, puis le prenant, le baisant au front. « Adieu, bébé, c'est fini, bien fini, entends-tu? Je me sauve. » Et elle le quitta. Il était debout au milieu du salon. Les derniers mots sonnaient comme un tocsin à ses oreilles. C'était fini, bien fini. Et il croyait que la terre s'ouvrait sous ses pieds. Dans le vide de son cerveau, l'homme qui attendait Nana avait disparu. Seul Philippe demeurait, aux bras nus de la jeune femme, continuellement. Elle ne niait pas, elle l'aimait, puisqu'elle voulait lui éviter le chagrin d'une infidélité. C'était fini, bien fini. Il respira fortement, il regarda autour de la pièce, étouffé par un poids qui l'écrasait. Des souvenirs lui revenaient un à un. Les nuits rieuses de la mignotte, des heures de caresses où il se croyait son enfant, puis des voluptés volées dans cette même pièce. Et jamais, jamais plus. Il était trop petit, il n'avait pas grandi assez vite. Philippe le remplaçait parce qu'il avait de la barbe. Alors, c'était la fin, il ne pouvait plus vivre. Son vice s'était trempé d'une tendresse infinie, d'une adoration sensuelle où tout son être se donnait. Puis, comment oublier lorsque son frère resterait là, son frère, un peu de son sang, un autre moi dont le plaisir l'enrageait de jalousie. C'était la fin, il voulait mourir. Toutes les portes demeuraient ouvertes dans la débandade bruyante des domestiques qui avaient vu madame sortir à pied. En bas, sur la banquette du vestibule, le boulanger riait avec Charles et François. Comme Zoé traversait le salon en courant, elle parut surprise de voir Georges et lui demanda s'il attendait madame. Oui, il l'attendait. Il avait oublié de lui rendre une réponse. Et quand il fut seul, il se mit à chercher. Ne trouvant rien autre, il prit dans le cabinet de toilette une paire de ciseaux très pointus dont Nana avait la continuelle manie de se servir pour éplucher sa personne, se rognant des peaux, se coupant des poils. Alors, pendant une heure, il patienta, les doigts collés nerveusement au ciseau, la main dans la poche. « Voilà, madame !» dit en revenant Zoé, qui avait dû la guetter par la fenêtre de la chambre. Il y eut des courses dans l'hôtel, des rires s'éteignirent, des portes se fermèrent. Georges entendit Nana qui payait le boulanger d'une voix brève. Puis elle monta. « Comment, tu es encore ici ? » dit-elle en l'apercevant. « Ah, nous allons nous fâcher, mon bonhomme !» Il la suivait pendant qu'elle se dirigeait vers la chambre. « Nana, veux-tu m'épouser ?» Mais elle haussa les épaules. C'était trop bête, elle ne répondait plus. Son idée était de lui jeter la porte sur la figure. « Nana, veux-tu m'épouser ?» Elle lança la porte. D'une main, il la rouvrit, tandis qu'il sortait l'autre main de la poche avec les ciseaux. Et, simplement, d'un grand coup, il se les enfonça dans la poitrine. Cependant, Nana avait eu conscience d'un malheur. Elle s'était tournée. Quand elle le vit se frapper, elle fut prise d'une indignation. « Mais est-il bête ? Mais est-il bête ? Et avec mes ciseaux encore ? Veux-tu bien finir, méchant gamin ? Ah, mon Dieu ! Ah, mon Dieu !» Elle s'effarait. Le petit, tombé sur les genoux, venait de se porter un second coup qu'il avait jeté tout de son long sur le tapis. Il barrait le seuil de la chambre. Alors, elle perdit complètement la tête, criant de toutes ses forces, n'osant enjamber ce corps qui l'enfermait et l'empêchait de courir chercher du secours. « Zoé, Zoé, arrive donc ! Fais-le finir ! C'est stupide à la fin, un enfant comme ça ! Le voilà qui se tue maintenant ! Et chez moi, a-t-on jamais vu ?» Il lui faisait peur. Il était tout blanc, les yeux fermés. Ça ne saignait presque pas. À peine un peu de sang, dont la tache mince se perdait sous le gilet. Elle se décidait à passer sur le corps lorsqu'une apparition la fit reculer. En face d'elle, par la porte du salon restée grande ouverte, une vieille dame s'avançait. Et elle reconnaissait Madame Hugon, terrifiée, ne s'expliquant pas cette présence. Elle reculait toujours, elle avait encore ses gants et son chapeau. Sa terreur devint telle qu'elle se défendit, la voix bégayante. « Madame, ce n'est pas moi, je vous jure. Il voulait m'épouser. J'ai dit non et il s'est tué. » Lentement, Madame Hugon s'approchait, vêtue de noir, la figure pâle, avec ses cheveux blancs. Dans la voiture, l'idée de Georges s'en était allée. La faute de Philippe l'avait reprise tout entière. Peut-être cette femme pourrait-elle donner au juge des explications qui les toucheraient. Et le projet lui venait de la supplier pour qu'elle déposât en faveur de son fils. En bas, les portes de l'hôtel étaient ouvertes. Elle hésitait dans l'escalier avec ses mauvaises jambes, lorsque, tout d'un coup, des appels d'épouvante l'avaient dirigée. Puis, en haut, un homme se trouvait par terre, la chemise tachée de rouge. C'était Georges. C'était son autre enfant. Nana répétait d'un ton imbécile « Il voulait m'épouser, j'ai dit non, et il s'est tué. » Sans un cri, Madame Hugon se baissa. Oui, c'était l'autre, c'était Georges, l'un déshonoré, l'autre assassiné. Cela ne la surprenait pas dans l'écroulement de toute sa vie. Agenouillée sur le tapis, ignorante du lieu où elle était, n'apercevant personne, elle regardait fixement le visage de Georges. Elle écoutait, une main sur son cœur. Puis, elle poussa un faible soupir. Elle avait senti le cœur battre. Alors, elle leva la tête, examina cette chambre et cette femme, parut se rappeler. Une flamme s'allumait dans ses yeux vides. Elle était si grande et si terrible de silence que Nana tremblait, en continuant de se défendre, par-dessus ce corps qui les séparait. « Je vous jure, madame, si son frère était là, il pourrait vous expliquer. » « Son frère a volé. Il est en prison, » dit la mère durement. Nana resta étranglée. « Mais pourquoi tout ça? L'autre avait volé à présent? Ils étaient donc fous dans cette famille. » Elle ne se débattait plus, n'ayant pas l'air chez elle, laissant madame Hugon donner des ordres. Les domestiques avaient fini par accourir. La vieille dame voulut absolument qu'ils descendissent Georges évanoui dans sa voiture. Elle aimait mieux le tuer et l'emporter de cette maison. Nana, de ses regards stupéfaits, suivit les domestiques qui tenaient ce pauvre zizi par les épaules et par les jambes. La mère marchait derrière, épuisée maintenant, s'appuyant aux meubles, comme jetée au néant de tout ce qu'elle aimait. Sur le palier, elle eut un sanglot. Elle se retourna et dit à deux reprises « Vous nous avez fait bien du mal. Vous nous avez fait bien du mal. » Ce fut tout. Nana s'était assise, dans sa stupeur, encore gantée et son chapeau sur la tête. L'hôtel retombait à un silence lourd. La voiture venait de partir et elle demeurait immobile, n'ayant pas une idée, la tête bourdonnante de cette histoire. Un quart d'heure plus tard, le comte Muffa la trouva à la même place. Mais alors, elle se soulagea par un flux débordant de paroles, lui contant le malheur, revenant 20 fois sur les mêmes détails, ramassant les ciseaux tachés de sang pour refaire le geste de Zizi quand il s'était frappé. Et elle avait surtout à cœur de prouver son innocence. « Voyons, chérie, est-ce ma faute? Si tu étais la justice, est-ce que tu me condamnerais? Je n'ai pas dit à Philippe de manger la grenouille, bien sûr, pas plus que je n'ai poussé ce petit malheureux à se massacrer. Dans tout ça, je suis la plus malheureuse. On vient faire ces bêtises chez moi, on me cause de la peine, on me traite comme une coquine. » Et elle se mit à pleurer. Une détente nerveuse la rendait molle et dolente, très attendrie, avec un immense chagrin. « Toi aussi, tu as l'air de n'être pas content. Demande un peu à Zoé si j'y suis pour quelque chose. Zoé, parlez donc, expliquez à monsieur. » Depuis un instant, la femme de chambre, qui avait pris dans le cabinet une serviette et une cuvette d'eau, frottait le tapis pour enlever une tache de sang pendant que c'était frais. « Oh, monsieur, » déclara-t-elle, « madame est assez désolée. » Muffa restait saisi, glacé par ce drame, la pensée pleine de cette mère pleurant ses fils. Il connaissait son grand cœur, il la voyait, dans ses habits de veuve, s'éteignant seule au fond d'être. Mais Nana se désespérait plus fort. Maintenant, l'image de Zizi tombée par terre, avec un trou rouge sur sa chemise, la jetait hors d'elle. Il était si mignon, si doux, si caressant. Ah, tu sais, mon chat, tant pis si ça te vexe. Je l'aimais, ce bébé. Je ne peux pas me retenir, c'est plus fort que moi. Et puis, ça ne doit rien te faire à présent, il n'est plus là. Tu as ce que tu voulais. Tu es bien sûr de ne plus nous surprendre. Et cette dernière idée l'étrangla d'un tel regret qu'il finit par la consoler. Allons, elle devait se montrer forte. Elle avait raison, ce n'était pas sa faute. Mais elle s'arrêta d'elle-même pour dire « Écoute, tu vas courir me chercher de ces nouvelles. Tout de suite, je veux. » Il prit son chapeau et alla chercher des nouvelles de Georges. Au bout de 3/4 d'heure, quand il revint, il aperçut Nana penchée anxieusement à une fenêtre, et il lui cria du trottoir que le petit n'était pas mort et qu'on espérait même le sauver. Alors elle sauta tout de suite à une grande joie. Elle chantait, dansait, trouvait l'existence belle. Zoé, cependant, n'était pas contente de son lavage. Elle regardait toujours la tache, elle répétait chaque fois en passant « Vous savez, madame, que ce n'est pas parti !» En effet, la tache reparaissait d'un rouge pâle sur une rosace blanche du tapis. C'était, au seuil même de la chambre, comme un trait de sang qui barrait la porte. « Bah !» dit Nana heureuse, « ça s'en ira sous les pieds !» Dès le lendemain, le comte Muffa avait, lui aussi, oublié l'aventure. Un instant, dans le fiacre qui le menait rue Richelieu, il s'était juré de ne pas retourner chez cette femme. Le ciel lui donnait un avertissement. Il regardait le malheur de Philippe et de Georges comme l'annonce de sa propre perte. Mais ni le spectacle de Madame Hugon en larmes, ni la vue de l'enfant brûlé de fièvre n'avaient eu la force de lui faire tenir son serment. Et, du court frisson de ce drame, il lui restait seulement la jouissance sourde d'être débarrassé d'un rival dont la jeunesse charmante l'avait toujours exaspéré. Il en arrivait maintenant à une passion exclusive, une de ces passions d'hommes qui n'ont pas eu de jeunesse. Il aimait Nana avec un besoin de la savoir à lui seul, de l'entendre, de la toucher, d'être dans son haleine. C'était une tendresse élargie au-delà des sens, jusqu'au sentiment pur, une affection inquiète, jalouse du passé, rêvant parfois de rédemption, de pardon reçu, tous deux agenouillés devant Dieu le Père. Chaque jour, la religion le reprenait davantage. Il pratiquait de nouveau, se confessait et communiait, sans cesse combattu, doublant de ses remords les joies du péché et de la pénitence. Puis, son directeur lui ayant permis d'user sa passion, il s'était fait une habitude de cette damnation quotidienne qu'il rachetait par des élans de foi pleins d'une humilité dévote. Très naïvement, il offrait au ciel, comme une souffrance expiatrice, l'abominable tourment dont il souffrait. Ce tourment grandissait encore. Il montait son calvaire de croyant, de cœur grave et profond, tombé dans la sensualité enragée d'une fille. Et ce dont il agonisait surtout, c'était des continuelles infidélités de cette femme, ne pouvant se faire au partage, ne comprenant pas ses caprices imbéciles. Lui souhaitait un amour éternel, toujours le même. Cependant, elle avait juré, et il la payait pour ça. Mais il la sentait menteuse, incapable de se garder, se donnant aux amis, aux passants, en bonne bête, née pour vivre sans chemise. Un matin, qu'il vit sortir Foucarmont de chez elle, à une heure singulière, il lui fit une scène. Du coup, elle se fâcha, fatiguée de sa jalousie. Déjà, plusieurs fois, elle s'était montrée gentille. Ainsi, le soir où il l'avait surprise avec Georges, elle était revenue la première, avouant ses torts, le comblant de caresses et de mots aimables pour lui faire avaler ça. Mais à la fin, il l'assommait avec son entêtement à ne pas comprendre les femmes. Et elle fut brutale. « Eh bien, oui, j'ai couché avec Foucarmon. Après, hein, ça te défrise, mon petit muf ?» C'était la première fois qu'elle lui jetait « mon petit muf » à la figure. Et il restait suffoqué par la carrure de son aveu. Et, comme il serrait les poings, elle marcha vers lui, le regarda en face. « En voilà assez, hein? Si ça ne te convient pas, tu vas me faire le plaisir de sortir. Je ne veux pas que tu cries chez moi. Mets bien dans ta caboche que j'entends être libre. Quand un homme me plaît, je couche avec. Parfaitement, c'est comme ça. Et il faut te décider tout de suite. Oui ou non, tu peux sortir. » Elle était allée ouvrir la porte. Il ne sortit pas. Maintenant, c'était sa façon de l'attacher davantage. Pour un rien, à la moindre querelle, elle lui mettait le marché en main avec des réflexions abominables. Ah bien, elle trouverait toujours mieux que lui. Elle avait l'embarras du choix. On ramassait des hommes dehors, tant qu'on en voulait, et des hommes moins godiches, dont le sang bouillait dans les veines. Il baissait la tête, attendait des heures plus douces lorsqu'elle avait un besoin d'argent. Alors, elle se faisait caressante et il oubliait. Une nuit de tendresse compensait les tortures de toute une semaine. Son rapprochement avec sa femme lui avait rendu son intérieur insupportable. La comtesse, lâchée par Fauchery qui retombait sous l'empire de Rose, s'étourdissait à d'autres amours dans le coup de fièvre inquiet de la quarantaine, toujours nerveuse, emplissant l'hôtel du tourbillon exaspérant de sa vie. Estelle, depuis son mariage, ne voyait plus son père. Chez cette fille, plate et insignifiante, une femme d'une volonté de fer avait brusquement paru, si absolue que Daguenay tremblait devant elle. Maintenant, il l'accompagnait à la messe, convertie, furieux contre son beau-père qui les ruinait avec une créature. Seul M. Veneau restait tendre pour le comte, guettant son heure. Même, il en était arrivé à s'introduire près de Nana. Il fréquentait les deux maisons, où l'on rencontrait derrière les portes son continuel sourire. Et Muffat, misérable chez lui, chassé par l'ennui et la honte, préférait encore vivre avenue de Villiers, au milieu des injures.